Bon, bonjour famille, d'abord. Bienvenue à la maison de Dieu. Pour les personnes qui nous rendent visite la première fois, bienvenue. Bon, on va laisser tout entre les mains de Dieu. On va prier pour qu'il prenne le contrôle de moi, de vous, et voilà, et de l'Église. Bon Seigneur, d'abord, merci Seigneur pour cette journée, Seigneur. Merci parce qu'on est réunis que pour toi. C'est toi, Seigneur, la personne plus importante qu'on vient voir, Seigneur, qu'on vient pour honorer, pour louer, pour adorer et pour entendre ta parole, Seigneur. Prends, Seigneur, ma vie, prends ma langue, prends mes pensées, Seigneur, que c'est toi qui parles, Seigneur, que ce n'est pas moi, ni ma chair, Seigneur, sinon que c'est toi, Seigneur, qui prends le contrôle de tout. Merci encore, Seigneur, parce que tu es bon, tu es magnifique, Seigneur. Tu es toujours bon, Seigneur. Amen. Bon, aujourd'hui, on va aborder un sujet, je pense qu'on est tous concernés. Je l'ai mis comme titre, les blessures de l'âme. Parce que nous sommes tous passés par des moments difficiles. Tout le monde a des plaies, a des cicatrices dans nos vies. Pas simplement des cicatrices physiques, mais sinon des cicatrices internes. Tout le monde a vécu des batailles. Tout le monde a des blessures dans le passé. Peut-être on était amoureux. Après, la personne nous a trompé. On a eu des blessures. Mais c'est des blessures que des fois, les personnes ne peuvent pas regarder. Parce que c'est des blessures qui sont restées à l'intérieur. Mais ces blessures, grâce à ces blessures, nous on est ici. Parce que ça veut dire que tu t'es pas rendu, que tu as lutté, que tu as combattu, malgré les circonstances, malgré les problèmes. On a survécu à ce type de bataille. C'est pour ça qu'ici, on trouve des personnes qui viennent de mariage, de familles dysfonctionnelles, des parents qui ont abandonné ses enfants, des problèmes de couples, des enfants rebelles, des couples avec des jeunes qui ne sont pas pareils, un qui athée, un qui croyant. On a tous des problèmes économiques, des problèmes de papier, des problèmes de discrimination, même l'indifférence de notre famille. Et tous, on est passé par là. Et aujourd'hui, justement, je vais prendre un personnage de la Bible qui est très puissant, un prophète que tout le monde connaît, mais c'est le prophète Élie. Vous connaissez l'histoire d'Élie. C'est un grand prophète. Des fois, on a peur de nous comparer à lui parce que c'est une personne qui a eu une grande onction. Lui, il a fait tellement de miracles, il avait la puissance. C'est une personne que Dieu l'accompagnait tout le temps. Mais je voudrais voir l'autre côté, le côté humain. Parce que malgré tout, il était un humain comme nous. Il a eu aussi des sentiments de faiblesse. Et on va voir son histoire. On va y aller dans la parole de Dieu, dans le premier des rois, le chapitre 18, du verset de 21 au 24. Alors, pour voir c'était qui Élie. Et là, on va voir, ça c'est quelque chose que pour moi, je le trouvais un peu amusant parce que c'est la première fois que je vois que Dieu va se mettre dans un jeu, dans un concours. Vous allez voir. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Là, pour savoir le contexte, c'était une époque où le peuple d'Israël adorait beaucoup le dieu de Baal. Il s'avait détourné. Et en plus, il avait une sécheresse à cette époque-là. C'est le contexte qui se fait. Élie l'avait dit, alors, bon, soit vous adorez le dieu de Baal, soit vous adorez l'Éternel. Voilà. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il a 450 prophètes de Baal. Il avait un seul prophète pour Dieu et 450 de l'autre côté. Que l'on nous donne du taureau, voilà le défi. Qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux, qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu, et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Voilà un défi. C'est-à-dire, on va mettre deux taureaux, un pour moi, un pour vous. Voilà, on va faire un hôtel, on va faire un holocauste. Et le premier dieu qui met du feu dans l'holocauste sera le gagnant. Voilà. Vous voyez, Dieu qui permet voilà, de faire un jeu, un défi. Moi, j'ai trouvé une histoire amusante, ça. Ensuite, entre le 29 au 35, j'ai sauté tout pour ne pas lire tout le chapitre. C'est marqué, lorsque midi fut passé, ils prophétiseraient jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y a eu ni voix, ni réponse, ni d'attention. En plus, ils étaient 450. Et même dans le verset avant, Élie disait, bah alors, il y a votre Dieu, peut-être il en voyage. Peut-être, voilà, je ne sais pas, il est en train de faire quelque chose. Il dort. Il s'est moqué en plus de leur Dieu. Élie dit alors à tout le peuple. Et même, ils sont coupés pour verser du son. Mais rien ne s'est passé. Jusqu'à midi, ils ont crié, ils ont clamé, et rien du tout. Et justement, Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi !» Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob auxquelles l'Éternel avait dit « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis, il dit, remplissez d'eau 4 couches et versez-le sur l'holocauste, sur le bois. En plus, pour être sûr, déjà c'était difficile de faire tomber du feu du ciel. Il dit, pour éviter voilà, qu'il dit, oh, que c'est la sécheresse, c'est la chaleur qui va brûler comme maintenant que c'est les forêts qui s'incendient. Il dit, allez, pour être sûr, il faut mettre de l'eau. Il a demandé 3 fois de remplir de l'eau. On dirait que c'est une piscine là. Pour être sûr que c'est la main de Dieu qui va agir. Regardez-vous l'assurance qu'il avait. Puis il dit, remplissez 2 ou 4 couches et versez-le sur le coste sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et il le fit une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et il le fit. ils le firent une troisième fois, trois fois. Tout le temps trois fois, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est tout le temps dans l'âme, dans le corps, dans l'esprit, pour être sûr. Et ensuite, dans le 35, on va voir qu'est-ce qu'il se passait. L'eau coula autour de l'autel, on remplit aussi de l'eau le fossé. Voilà. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui, tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Vous voyez, déjà les pierres, je ne sais pas comment le feu pouvait absorber le pied, consommer les pierres. C'était quelque chose en fou, je ne sais pas, qu'on n'a pas jamais connu. Mais regardez qu'est-ce qu'il a vécu. Je voudrais que vous vous mettez à sa place, que vous vivez ce moment-là qu'il est en train de vivre. Demande le feu qu'il vient du ciel, qui va consommer tout, l'eau, la pierre, l'holocauste, tout. Mais qu'est-ce qu'il a fait en plus? Et quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est à ce moment-là que les personnes ont dit, c'est voilà, ça c'est le Dieu de Élie, ça c'est le véritable Dieu. Tout le monde a regardé ça, tout le monde l'a vu. Mais qu'est-ce qu'il a fait Élie en plus? Là c'est quelque chose que c'est facile à lire dans un verset, mais qu'est-ce qu'il a fait après? Il dit, c'est si c'est le prophète de Baal, lui dit Élie, que aucun d'eux n'échappe. Et il les saisit, Élie les fit descendre au torrent de Kisson, où il les égorgia. Il a pris leur vie. Il a enlevé la tête à 450 personnes, lui tout seul. Je ne sais pas comment il faut avoir courage, mais il était jaloux de Dieu, voilà. Et lui, voilà. Parce que c'était la loi à l'époque. Si un prophète voilà, montait, c'était la mort. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça, j'imagine que c'était un réveil à ce moment-là. Parce que tout le monde l'a vu. Il a appelé le peuple pour qu'il voit. Il a mis encore un défi plus difficile de mettre du long. Pour être sûr qu'il a un véritable Dieu. Et c'était l'Éternel, notre Dieu. Mais là, justement, à ce moment-là, c'est ce que on n'est pas venu pour parler de ce qu'il a fait, sinon comment il a agi après. On va passer au 1er roi 19:2. Jézabel, c'était la reine, c'était la femme d'Akab. Qu'est-ce qu'il se passait? Que Akab, c'était le roi d'Israël, il a vu tout ça, il est parti, il a parlé à sa femme, il a dit, oh, regarde, qu'est-ce qu'il a fait, Élie, voilà, Dieu, il s'est montré, il a fait un défi, en plus, mais il a tué tous les prophètes. Mais Jézabel, c'était quelqu'un de, qui adorait les dieux de Baal. Mais qu'est-ce qu'il fait? Comme voilà, son époux l'avait raconté, qu'est-ce qu'il se passait? Elle envoyait un WhatsApp, un SMS à Eli. Son Eli, demain à cette heure-là, je vais faire la même chose comme toi fais au prophète. C'est marqué. Jézabel a envoyé un message à Eli pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Est-ce que vous connaissez l'histoire? Qu'est-ce qu'il a fait Eli après? Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'Eli. Parce qu'Eli vient de vivre un moment très spectaculaire. Il a vu la main de Dieu. Mais après ce message de Jézabel, le message d'une femme, il a eu peur. Ils ont fui. Et moi, je n'ai pas arrivé à comprendre. Il vient de vivre quelque chose d'extraordinaire. Et le message d'une femme, il a peur. Je ne sais pas s'il y a un mari qui se sont identifiés ici, mais le message d'une femme, ok, la belle-mère, mais d'une femme, mais en plus, ce n'était pas sa femme, ce n'était pas quelqu'un connu. Elle ne la connaissait pas, même pas. Mais le message d'une femme, elle a eu peur. Et c'est pour ça, c'est à ce moment-là qu'on va voir qu'est-ce qu'il a vécu et pourquoi. Dans 1 Roi 19:3, on va voir ce qu'il a fait justement. Élie, voyant cela, s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda. Et il laissa son serviteur. Mais il est parti tout seul. Il a laissé son serviteur. Il avait quelqu'un qui était avec lui. Mais il avait tellement peur qu'ils ont fui. Il a dit, je ne pense plus, je m'échappe. Et si justement, c'est des choses que on est concerné. Des fois, nous, on passe un moment important. Des fois, on te dit parce qu'on te voit de l'extérieur. Et tu dis, oh, comment Dieu il t'utilise. Tu as des paroles. Tu as un bon. La prêche. Oh, voilà, tu chantes bien. Mais des fois, on ne sait pas qu'est-ce qu'on vit à l'intérieur de nous. Les batailles qu'on a à l'intérieur. Et je pense qu'Elie, il ne fuyait pas de mourir, voilà, de sauver sa vie. Mais je pense qu'il fuyait de sa vie. Parce qu'il venait de faire quelque chose de spectaculaire. Après, il avait un passage, après qu'il avait fait en plus le défi voilà, de Dieu, il avait aussi prié pour la pluie. Et en plus, il a couru. Il a couru tellement vite que le roi Achab, il est dans un chariot. Il est en train d'y aller pour se sauver de la pluie parce qu'il avait, averti. Il faut y aller, voilà, parce que la pluie va arriver pour éviter qu'il te bloque. Et lui, en courant, il a lui dépassé. Voilà, il a fait un effort physique énorme. Mais des fois, voilà, quand tu te trouves dans le meilleur moment, il n'y a personne qui sache qu'est-ce que tu vis à l'intérieur. Quelle bataille avec ta famille, ton travail, on est chargé des fois. Mais les personnes ne savent pas. Mais les personnes voient les batailles que tu vis à l'extérieur, des batailles que tu gagnes pour les autres. Mais ils ne voient pas les batailles que tu vis toi-même. Et ça, des fois, ça nous fatigue. Parce que des fois, on est élevé comme ça. on dit non. Il ne faut pas dire nos faiblesses. Il ne faut pas raconter nos problèmes. Parce qu'ils font dire l'authenticité va diminuer ton autorité. Il y a un apport. Et on fabrique un modèle prédéfini. Un modèle que tout le monde voit à l'extérieur. Oh oui, regarde. Mais on a peur de raconter nos faiblesses. On a peur de dire que voilà, qu'on passe des problèmes. Et c'est ici qu'on doit venir justement. Rappelez-vous que l'Église est un hôpital d'âme. Tout le monde a des problèmes. Il ne faut pas avoir honte. Il faut être libre. Il faut le dire. Comment on peut vous aider si vous n'êtes rien du tout? Si on pense que tout le monde est bien, on pense que c'est une famille parfaite. On n'est pas des anges comme ça avec des ailes qui viennent pour louer Dieu. On a tous des problèmes. On est des humains. On est ici justement, c'est ici que ça commence la restauration. Et simplement, qu'est-ce qu'il a fait lui? Pas simplement, ils sont fuis. Après, il a fait une prière. Il vient de vivre quelque chose d'extraordinaire. Il va faire une prière que, voilà, qu'on ne pense pas. Qu'est-ce qu'il dit? C'est assez. Je veux mourir. C'est assez. Je suis fatigué. Je veux mourir. Je ne peux plus. Il s'est couché sous une boisson, il s'endormit. Il ne voulait plus se réveiller. Je pense qu'il voulait mourir, il voulait que Dieu lui donne l'euthanasie. Je ne sais pas. Et c'est ce qui est écrit dans voilà, Première Roi 19, 4, 5. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sur un gêné et demanda la mort. Et demanda la mort. En disant, c'est assez. Maintenant, éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il voulait, je ne sais pas pourquoi, mais il était fatigué. Il disait, fais attention à cette phrase qu'on va le voir après. Je ne suis pas meilleur que mes pères. C'est assez. En plus, qu'est-ce qu'il fait? Il se coucha et s'endormit sous un gêné. Et voici, un ange le toucha. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, il a prié, je ne peux plus, je veux mourir, il s'endort. C'était un prophète, c'était un leader. Ça peut être un pasteur, ça peut être vous, parce que vous êtes des sacerdotes. Et des fois, on ne peut plus. Des fois, on est fatigué. Des fois, toute la semaine, on est chargé. Et des fois, on vient ici, des fois, on n'a pas envie de venir. Des fois, on dira, il fait froid un dimanche. Quoi que Dieu, pourquoi un dimanche, je ne viens pas. Des fois, on n'a pas les forces. Après, on est consommé par le travail, on est consommé par nos enfants. Et on ne peut pas venir. Mais nous, peut-être, si c'est un leader, on dirait, alors, pourquoi tu as fait ça? Tu n'as pas le droit, tu es un leader. C'est toi voilà, qui doit donner voilà, l'exemple. Nous, peut-être, on pourrait le juger comme ça. Tu n'as pas le droit de faire ça. Il y a des personnes derrière toi. Mais vous croyez qu'est-ce qu'il a fait Dieu avec lui? Parce qu'il a condamné, il a dit, bon, c'est bon, je vais t'enlever la onction que je t'ai donnée. Tout au contraire. Là, vous allez avoir quelque chose d'extraordinaire qu'il a fait. La chose la plus tendre, voilà, qu'on peut trouver dans les Écritures. Là, il dit, et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. À la place de nous, de peut-être de juger, condamner, de dire, t'as pas le droit, Dieu l'a dit, il a donné à manger. Il a donné à manger. J'aime les dieux des petits déjeuners. Le Dieu qui te prépare le petit déjeuner. J'aime bien ça. On l'a vu aussi quand Pierre l'avait trahi. Il a donné à manger un poisson aussi à Pierre. Après qu'il l'avait trahi trois fois, il a donné à manger. J'aime bien ce Dieu des petits déjeuners parce que ça ressemble à notre père. Voilà. C'est une figure paternelle. Rappelez-vous quand Jésus nous a dit comment il fallait prier dans Matthieu 6, 9, 12. Voici donc comment vous devez prier. Tout le monde le connaît. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Regardez l'ordre. Mangez d'abord et ensuite nous réglons nos offenses. Vous savez, jamais un enfant de Dieu perdra le droit de manger le pain de vie et de boire l'eau dont vous n'aurez plus jamais soif. Jamais. Et lui, il commence par lui donner manger. Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a fait après? Élie, il a mangé parce qu'il avait donné une carafe d'eau et un gâteau à base de farine et huile, voilà. Il a mangé, mais il est tellement fatigué qu'il se rend encore. Voilà. Et maintenant, Dieu, il a tellement la patience qu'il va envoyer encore un ange, par contre, maintenant, avec plus d'informations. Là, il va dire, allez manger parce que tu as encore un long chemin à parcourir. Là, dans 1 Roi 19, 7, voilà. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, car le chemin est trop long pour toi. Dieu ne l'a pas encore puni. Il a dit, mange, je vais encore t'utiliser. Tu as encore des choses à faire pour moi. Mais des fois, vous voyez ici, il a donné deux fois à manger. Des fois, peut-être la chose plus spirituelle, c'est de manger. Il commence à restaurer son corps. Il n'a pas commencé par son esprit. Il a commencé par son corps. Parce qu'il était fatigué, comme on dit. Nous, on est chargé. Et des fois, c'est comme les médecins. Je me rappelle que ma mère me disait, tant que tu manges, tu vas avoir la santé. Quand tu ne manges pas, voilà, ça va te faire quelque chose. C'est comme les joueurs de foot aussi. Un joueur de foot qui est blessé, on ne peut pas le mettre sur le terrain pour jouer. Parce que qu'est-ce qu'il va se passer? Peut-être qu'il ne pourrait jamais jouer plus. Parce que voilà, il va se blesser encore. S'il est blessé, il joue blessé. Voilà, il va peut-être arrêter après un an une blessure très grave. Et des fois, Dieu te dit, ok, d'abord, il faut te nourrir. Il faut rester tranquille. On a payé des millions d'euros voilà, pour un joueur. On ne va pas le faire jouer pendant la finale. On peut rater le match, on peut perdre le match. Mais il faut faire attention à la personne. Et des fois, le contraire. On peut gagner le match, mais nous, on ne va pas jouer. Et des fois, c'est ça. Des fois, on doit rester tranquille. Des fois, on doit voir la victoire. Parce que des fois, on veut être présent partout. Mais il y a un moment qu'il faut s'arrêter. Il faut se récupérer. Il faut renouveler nos forces physiques et aussi spirituelles. Mais Dieu, il commence à restaurer son corps d'abord. Il commence à le restaurer. Il ne dit pas, alors, pourquoi tu fais ça? Tiens, lâche. Il ne dit pas, il ne le juge pas. Pourquoi tu fais ça? Je te donne mon Dieu, alors c'est bon. Une fois, je te demande, alors pourquoi tu ne te relèves pas et commences à marcher? Non. Il a fait une seconde fois. Parce qu'il nous connaît. Mais qu'est-ce qu'il a fait après Élie? Voilà. Qu'il a mangé deux fois. On voit dans 1 Roi 19, 9, 10. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, il s'est révélé. La première chose que voilà, il a marché et il est rentré dans une caverne, dans une grotte, encore pour se cacher. Malgré qu'il a vu, il était nourri de foi. Il est tout le temps. Et il voulut s'isoler du monde. Vous voyez, s'isoler du monde. Ça nous arrive aussi. Que des fois, on dit, je ne veux plus faire, voilà. Pourquoi je fais ça? Tout le temps pareil, ça ne change rien du tout. Et on n'a plus d'espoir. Des fois, on dit, on n'avance pas. On est dans un cercle vicieux. On ne voit pas de changement. Parce que nous, on voudrait tout le temps voir des choses, des changements. Et des fois, voilà, on dit, on voit. Alors. On veut jeter l'éponge, on dit comme ça, en français. On veut jeter l'éponge. Parce que des fois, on croit qu'on est tout seul. Qu'on est le seul dans le monde, voilà, qui passe des problèmes. Que c'est nous, voilà, qui nous en charge de la responsabilité de tout. Que dans la maison, c'est nous. Si il n'est pas que nous, la maison sera, voilà, en catastrophe, voilà. Et des fois, c'est comme ça. Je pense que Élie était comme ça aussi. Il venait de vivre quelque chose d'extraordinaire, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il vit à l'intérieur. Et on va voir la cause, la raison. Mais avant de ça, on va voir là. Il répondit, Jéhovah le demande, que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon sel pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils sont tués par l'épée des prophètes. Je suis resté, moi, seul. Et il cherche à m'ôter la vie. Qu'est-ce qu'il a répondu? Je suis resté, moi, seul. je pense que quand on est deux ou trois personnes pour se battre, je pense qu'on continue à donner la bataille. Mais quand on est tout seul, c'est facile d'élever le drapeau blanc. Quand on est dans la solitude, c'est dans la solitude qu'on perd l'espoir. Parce que toutes les charges, c'est pour nous. Je pense que c'est nous. C'est comme une mère qui, des fois, voit les enfants qu'il est en train de traîner. Il voit un enfant qui a laissé la couche par terre. L'autre enfant qui est en train d'essayer de tout l'escalier. Il a la cuisine qui est en train de déborder. On se sent frustré parce qu'on pense qu'on est tout seul, qu'on n'a pas d'aide. Je pense que Ellie était pareil. Elle était trop chargée. Ce qui rappelait qu'il disait tout le temps, moi je suis le seul prophète qui reste. Et quand on est seul, et on n'a pas de soutien, on n'est pas une autre personne, on peut finir comme lui. On s'isole dans une grotte, dans une caverne. Vous sortez dans une caverne et tout est noir, tout tombe. Il y a une anecdote d'un soldat américain. J'aime bien les anecdotes de la guerre mondiale, parce que s'est passé beaucoup de choses. Il y avait un soldat qui est voilà, américain, et les nazis sont voilà, attrapé tous les soldats américains, et lui, il voilà, s'est échappé. Il était dans ces montagnes où il avait beaucoup de grottes. Il s'est mis dans une grotte petite, mais voilà, il rentrait. Et lui, il a prié. Il a dit, Dieu, si tu existes, fais envoyer un ange qui mette une roche pour couvrir voilà, ces grottes. Ou fais un tremblement de terre, voilà, quelque chose voilà, pour me couvrir, voilà, pour envoyer une roche et pour fermer la grotte. Et 15 minutes après, il y a une araignée qui descend. Devant lui, il commence à faire une petite toile d'araignée. Après 2 heures, voilà, il a fait toute l'étoile. Et les soldats nazis passent, commencent à vérifier toutes les grottes. Et lui, il disait, Dieu, je t'ai demandé que tu m'envoies une roche, que tu m'envoies une araignée. Et moi qui, je croyais en Dieu. N'importe quoi. Mais les soldats passent et vérifient toutes les grottes. Il dit, ah, ici, je pense qu'il n'y a personne parce qu'il ne l'a pas l'araignée. Et il passe. Des fois, les choses insignifiantes, nous, on pense tout le temps, on demande de grandes choses. On fait pas, on voit pas les petits détails ou les choses qu'il fait Dieu pour nous. Mais on va voir aussi qu'est-ce qu'il a répondu encore une deuxième fois dans 1 Roi 19, 11, 12. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y a eu un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et l'Éternel n'était pas dans le feu, dans le vent, ni dans le tremblement de terre. Des fois, ce n'est pas suffisant. Des fois, nous, on demande tout le temps des miracles. Des fois, les miracles ne font pas convertir la personne. C'est pas Dieu. C'est ça que Dieu parle, les miracles. Ce n'était pas le plus important. Il l'a montré simplement pour dire voilà, qu'il était Dieu. Mais c'était pas ça qui faisait changer leur cœur des personnes. Le peuple d'Israël a vu tous les miracles, a vu les 10 plaies. Ils ont vécu comme les mers sont ouvertes. Ils ont mangé du ciel, mais malgré ça, ils ont passé 40 ans et ils ont péché. Ils ont vu à Dieu. Mais ce n'est pas ça qui va te faire. Quand il avait les miracles du poisson et le pain, Jésus disait, les personnes viennent pour manger. Ils viennent pas pour Allah, pour devenir enfant de Dieu. C'est pour ça qu'ils mettent cet exemple. Ils n'étaient pas dans le feu, ils n'étaient pas dans le vent, et ils n'étaient pas dans notre monde de terre. Il était où? Dans un murmure doux et léger. Ça, c'est un murmure. C'est un son très doux. Une autre version du bruissement doux. C'est la seule chose qui pouvait rentrer dans une grotte. Pas dans ce spectacle. Pas dans le feu. Dans le murmure. Et Dieu, il n'a pas dit, que fais-tu là? Sors! Il a dit, que fais-tu ici? Il est rentré. C'est pas quand Jésus l'avait appelé à Pilate pour se réveiller. Sors de là. Non, lui, il est rentré. Que fais-tu ici? Que fais-tu ici? C'est la question qui te pose Dieu aujourd'hui. Si tu te trouves, peut-être qu'à l'extérieur, on te voit normal, on te voit une vie normale, mais tu passes des problèmes internes avec toi-même, avec ton couple, avec tes enfants, avec ton travail. Que fais-tu ici? Si tu arrives à marcher dans le murmure avec Dieu, c'est pour ça que toutes les chansons, c'était dit. Je viens t'appeler aujourd'hui. Si vous voyez les paroles qu'on a chantées, Dieu t'appelle aujourd'hui. Il est venu pour toi. Il y a un autre témoignage pour finir. D'une personne qui est très très populaire, qui s'est converti. Et après qu'il s'est converti, il commençait à prêcher, voilà, de sa conversion. Il dit, ah oui, j'ai connu à Dieu, je suis chrétien. Il prêchait partout, comme il racontait son témoignage. Mais qu'est-ce qu'il se passait 3 mois après? Son couple s'est cassé. Et un pasteur est venu, il a dit, bon, désolé, mon fils, mais il faut que tu arrêtes de prêcher. Hein? Parce que tu n'es pas un bon témoignage maintenant. Après, lui dit un autre pasteur, il m'a dit qu'il faut que je ne prêche plus. Mais ce n'est pas moi qui s'est divorcé, c'est ma femme qui m'a laissé. Je pourrais en faire, je voulais faire tout, mais il est parti avec quelqu'un d'autre. Il le demande à l'autre pasteur, tu sais, prie pour moi, parce que ma vie est en chaos. Et l'autre pasteur lui dit, ta vie est en chaos? Tiens, je vais te montrer ici, dans la parole de Dieu, tout le monde, et la vie de tous, c'est en chaos. Tout ce que tu dis, David, on dit, oh, les hommes de David, waouh! La louange de David. Mais tout ce qu'a fait David, c'est assassin. Il a tué le mari, voilà, pour une femme. Moïse. Moïse, tous en ont échoué. Même Salomon, le plus sage, la vie de tous est en chaos. Tu sais ce que tu dois faire? Va et continue à prêcher. Il y aura des personnes qui vont te juger. Mais raconte ça. Que malgré que ton couple a disparu, tu n'es pas fini avec une autre femme, tu n'es pas fini avec l'alcool, tu t'es pas mis ça. Que tu, malgré tes blessures, malgré tes plaies, tu continues ferme dans le chemin de Dieu. C'est ça qu'il faut faire. Que tu continues à prêcher. Que malgré les circonstances, malgré la réalité, il a les promesses. Et les promesses de Dieu, c'est au-dessus de tout. Et ça, c'est la véritable paix. On nous apprend que la paix, c'est que rester calme, qu'il n'y a aucun problème. Ça, c'est la paix. C'est pas ça, la paix. La véritable paix, c'est que tu vas louer Dieu, tu vas adorer Dieu, qu'il soit en bon état physique, en bonne santé, ou malade, avec des problèmes ou sans problème, tu vas continuer à adorer à Dieu. Parce que tu sais qu'il est avec toi. Et c'est lui qui va lutter pour toi. Ça, c'est la véritable paix. Que malgré toutes circonstances, que tu sois bon ou dans le mauvais problème, ou de mauvais, voilà, que tu te trouves voilà, avec des problèmes, tu seras tranquille. Parce qu'il nous a laissé le Saint-Esprit pour nous accompagner, pour nous rappeler. Amen.